Eliza, bienvenue sur le podcast Conversation Awesome avec Carmackin. Mon nom est Claudia et ma mission avec ce podcast est de t'amener dans un monde d'inspiration, de découverte et d'apprentissage. À travers des épisodes solo ou avec invités, en français and in English, attends-toi à une panoplie de sujets et d'histoires variées en lien avec la santé, les habitudes de vie, le développement personnel et spirituel et tout ce qui peut t'aider à vivre une vie awesome, épanouie selon tes termes. I am honored and so grateful that you're here. Merci de partager le podcast en grand nombre, de t'y abonner et de laisser 5 étoiles et un review sur ta plateforme d'écoute préférée. All right, let's dive in dans la nouvelle conversation de la semaine et merci encore d'être à l'écoute. You're awesome. What is up, guys? J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine en mode solo sur un sujet bien spécifique aujourd'hui, le journal alimentaire. Avant de peser sur Next ou d'arrêter d'écouter le podcast parce que toi, t'as hi ça faire un journal alimentaire puis tu roules des yeux quand t'entends ces deux mots-là puis que ça te stresse d'écrire qu'est-ce que tu manges, ben c'est justement pour ça, entre autres, que j'ai décidé de faire un épisode de podcast sur ce sujet-là. C'est une conversation que j'ai avec presque toutes mes clientes. J'ai cette conversation-là avec toutes mes clientes qui ont du coaching en nutrition avec moi. Et je pense que c'est important de peut-être changer notre regard, notre intention, notre mindset, notre approche par rapport au fameux journal alimentaire. Donc, je voulais faire cette conversation awesome-là pour vous expliquer un petit peu, moi, ma philosophie, mon approche, la façon que j'intègre le journal alimentaire dans mon coaching avec mes clientes, avec les do's and don'ts, hein? Qu'est-ce que je propose de faire avec le journal et pourquoi? Et qu'est-ce que je propose de pas vraiment faire, tu sais, en faisant un journal alimentaire pour toutes sortes de raisons que je vais expliquer aujourd'hui. Donc, en ce moment, si jamais tu aurais comme envie d'optimiser ce que tu manges, de peut-être perdre du gras, de peut-être éliminer, réduire certains problèmes digestifs que tu ressens, si tu as l'impression que tu manges tout le temps la même affaire, si tu as des cravings des fois qui sont pas vraiment expliqués, que tu as de la misère à gérer, si tu as envie de manger plus en pleine conscience, de façon intentionnelle, peut-être que tu es dans un nouvel horaire, puis que ton horaire de bouffe a changé, que tu as l'impression que peut-être tu sautes des repas ou que tu grignotes toute la journée. Bref, pour toutes ces raisons et autre que j'ai peut-être pas nommé, ben la conversation peut t'aider. Je pense que chaque personne qui mange en ce moment, donc j'espère que c'est tout le monde. Évidemment, si vous ne mangez pas dans la vie, vous ne seriez pas en mesure de m'écouter en ce moment. Mais je pense que chaque personne qui mange devrait, à un moment donné dans sa vie, faire un journal alimentaire. Ne serait-ce que juste pour avoir des données puis de l'information un peu plus objective. Même si vous n'avez pas, encore une fois, nécessairement un objectif de perte de gras ou des problèmes de digestion, je pense que c'est un outil qui peut vraiment nous servir. Un peu comme, tu sais, faire le ménage du printemps puis faire l'inventaire de, je sais pas moi, le nombre de souliers que tu as dans ton garde-robe ou le linge que tu as ou de, tu sais, je sais pas moi, le tiroir avec plein de Tupperware dedans, ben de remettre un petit peu d'ordre là-dedans, d'observer objectivement qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui compose, représente, est intégré dans ton quotidien. Encore une fois, on mange à tous les jours, souvent plusieurs fois par jour. Fait que de temps en temps, de faire un genre de petit check-in, check-up avec cette habitude de vie qu'on fait vraiment, vraiment souvent, je pense que c'est pertinent puis important. La prise de conscience, de toute façon, c'est toujours la première étape à n'importe quoi. Puis de s'arrêter de temps en temps pour s'observer dans ces différentes sphères de vie-là, ces différents piliers-là, ces différentes habitudes-là, ben c'est important aussi, tu sais. On peut avoir des surprises, on peut avoir des confirmations, on peut réaliser des choses qu'on n'avait peut-être pas réalisées, surtout si on est dans un mode de vie peut-être moins conscient ou qui va vite ou qui est parsemé de plein d'affaires du matin au soir. Fait que bref, tout ça pour dire que je pense que oui, ça peut être pertinent pour tout le monde de faire un journal alimentaire, mais il faut le faire de façon consciente et intentionnelle, puis c'est ça aussi le but de la conversation aujourd'hui. Moi, personnellement, d'écrire qu'est-ce que je mangeais, ça a fait partie des facteurs qui m'ont amené dans mes troubles alimentaires. Fait que là, t'entends ça, puis tu fais comme, OK, Claudia est en train de nous dire de faire un journal alimentaire, sauf que ça a été un facteur qui a trigger ses troubles alimentaires à elle, ah, ça fait pas de sens. Bien, c'est justement pour ça que je veux faire cette conversation-là, parce que la façon que je l'ai faite, dans ma début vingtaine versus la façon là que je le ferais moi personnellement ou que j'invite mes clientes à le faire, my God, que c'est différent. Un peu comme le chiffre sur la balance, ça reste à ce jour, je pense, mon épisode de podcast ou un de mes épisodes de podcast les plus populaires, hein, pourquoi on ne devrait... Pourquoi perdre du poids ne devrait pas être ton objectif? Je pense que de mémoire, c'est le numéro 19. Ça reste à ce jour un de mes épisodes de podcast les plus populaires parce que ça aide tellement de femmes à revoir leur relation avec le mot du chiffre, sa balance. Ben, c'est un peu dans cette vibe-là que je vais amener le sujet du journal alimentaire aujourd'hui, de vous aider à revoir votre relation avec le journal pour que vous puissiez vous en servir comme un outil qui va vous aider avec votre santé. Donc, on va commencer là, hein? Pourquoi on ferait un journal alimentaire? Donc, je vous ai parlé des 12, hein, des raisons qui seraient valables, qui seraient valides, qui seraient positives. Les don'ts, les raisons de faire un journal alimentaire qui sont pas, selon moi, alignées, pertinentes, bonnes. Puis, OK, je vais faire une parenthèse là tout de suite. C'est sûr que ça, c'est mon approche à moi en tant que coach en nutrition. Il y a plein d'autres gens qui coachent en nutrition. Il y a des coachs en nutrition, il y a des diététistes, il y a des naturopathes, il y a des nutritionnistes. On est plusieurs, on a plusieurs titres qui travaillent la nutrition des gens, les habitudes alimentaires, etc. Et chaque personne peut avoir sa philosophie et sa façon de faire. Moi, c'est la mienne. Si ça te parle, ça te parle. Cool. Si ça te parle pas, ça te parle pas. Cool aussi. Je pense que si tu écoutes le podcast, c'est parce que tu vibes un peu avec ma façon d'approcher la santé ou peut-être que tu veux apprendre des nouvelles façons aussi, mais ça ne veut pas dire que j'ai la solution pour tout le monde, right? Parce que, par exemple, une des raisons, moi, que je trouve que ce n'est pas une bonne raison de faire un journal alimentaire, c'est pour compter les calories. Mon épisode 119, celui-là, je me souviens du chiffre, 119, faut-il compter les calories? C'est 58 minutes, genre, que je rentre en profondeur sur le sujet. Donc, je ne vais pas répéter pourquoi, moi, je ne fais pas compter les calories à mes clientes et que moi, personnellement, je ne compte pas mes calories. Mais je trouve, personnellement, que décider de faire un journal alimentaire juste parce que tu veux compter tes calories, ben c'est voué à pas être maintenu sur le long terme. C'est voué à rajouter probablement une grosse source de stress dans ton quotidien. La marge d'erreur est vraiment grande. Même si tu utilises une application mobile, que tu pèses ta nourriture, que tu rentres le plus de détails sur ce que tu manges, la pomme que tu as mangée était peut-être 45 calories, puis dans l'app, ça dit qu'elle était 55 ou 35. Puis ça, on parle d'un aliment. Fait qu'imagine l'accumulation de tous les aliments. À la fin de ta journée, t'as-tu mangé 1800 calories ou genre 2000 ou 1600? Puis es-tu vraiment quelqu'un qui veut compter ses calories le reste de ses jours puis rentrer tout ça en détail dans un journal alimentaire? Ben je pense pas. Donc, est-ce qu'on prend note les portions? Absolument. Est-ce qu'on est plus conscient de la quantité de nourriture? Absolument. Est-ce qu'on fait un journal alimentaire simplement pour trouver un nombre de calories qu'on doit manger, compter nos calories puis s'assurer qu'on respecte ça? Moi, je pense que non. Donc ça serait un don't. Une autre raison qui serait pas valable de faire un journal alimentaire, c'est pour te juger et pour te taper sa tête si à quelque part dans ton journal, c'est écrit que tu as bu du vin ou que tu as mangé du chocolat. Donc le journal alimentaire sert de donner le plus objectif possible. Tu écris ce que tu as mangé. Pas tu écris seulement qu'est-ce que tu juges qui est sain que tu as mangé. Pas t'écris ce que t'as mangé, puis là, tu te décourages, tu te trouves poche, tu te sens coupable parce que t'as écrit que t'avais mangé des biscuits. Tu écris simplement ce que tu manges, ce que tu bois dans une journée. Puis je vais vous expliquer comment moi, j'aime bien le faire, le journal alimentaire, puis les détails que j'aime ajouter aussi. Mais de faire un journal alimentaire pour se donner une note. Genre, cette semaine, j'ai été bonne. Aujourd'hui, dans mon journal alimentaire, bien, j'ai une journée parfaite, genre je mérite de l'amour parce que j'ai pas écrit un aliment triche, genre, mot que je déteste, un aliment différent dans mon journal. Aujourd'hui, j'aurais eu genre 50% parce que comme la moitié de la bouffe que j'ai mangée, ben moi je juge que c'est pas sain, fait que ouais, ça va jouer sur mon humeur puis mon jugement personnel toute la journée. Donc on veut éviter, un peu comme avec ce que j'explique avec le chiffre sur la balance, on veut éviter l'attachement émotionnel aux données qu'on rentre dans le journal alimentaire. Donc, une mauvaise raison d'écrire son journal, c'est de se juger en tant que personne à cause de qu'est-ce qu'on mange. OK? Ensuite, une autre raison qui, mon avis, hein, serait pas valable, c'est de faire un journal alimentaire personnel pour le comparer à une autre façon de manger, une diète qu'on a trouvée en ligne ou le journal alimentaire de quelqu'un d'autre, genre notre mari ou notre meilleur ami qui est sur le même chemin que nous, qui écrivent eux autres aussi leur journal alimentaire. Tu veux te comparer à toi. Tu veux que ton journal semaine 1 versus semaine 6 versus mois 6, tu sois capable de voir l'évolution, la progression, une optimisation dans ce que tu as écrit dans ton journal. Si tu fais ton journal là seulement pour dire « OK, moi j'ai vu un plan alimentaire d'une influenceuse sur Instagram, elle a fait un reel vraiment nice avec comme tout ce qu'elle mange dans une journée, fait que moi je vais écrire ce que je mange, puis je vais me comparer à elle, puis je vais faire des changements sur ce qui est différent en ce moment. » Wrong reason, mauvaise raison. L'influenceuse sur Instagram, genre, elle a vraiment pas les mêmes besoins que toi. OK, donc on se compare à soi-même et non à quelque chose, quelqu'un, un compte Facebook, un website qui met la diète keto de l'avant ou peu importe. OK, on se compare pas à ça, on se compare à soi-même. Maintenant, c'est quoi les bonnes raisons de faire un journal alimentaire, autre ceux que j'ai déjà nommés, tu sais? C'est sûr que, en fait, je vais me répéter, là, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on mange de façon objective. Ça nous permet d'avoir des prises de conscience et surtout de remarquer qu'est-ce qui saute au visage. Parce que souvent, là, au début d'un processus, on n'a pas nécessairement besoin d'une coach en nutrition, d'une nutritionniste pour nous dire, mettons, « Ah ouais, t'as-tu remarqué, Claudia? Ça fait 3 jours que t'as pas mangé de légumes. Ah, t'as-tu remarqué que, ouais, 4 fois par semaine, tu sautes ton dîner. Ah, t'as-tu remarqué que, ouais, tu bois genre 6 cafés par jour? Je veux dire, d'écrire, de prendre conscience, d'être plus à l'écoute puis plus en observation sur nos habitudes alimentaires. Et je mets ce qu'on boit aussi, hein. Donc oui, qu'est-ce qu'on mange, mais ce qu'on boit aussi dans une journée. Bien, ça nous permet d'observer par nous-mêmes puis de nous rendre compte de « aïe aïe ». Puis ça, j'ai ce commentaire-là tellement souvent avec mes clients puis je trouve ça nice quand ils me disent ça. J'avais pas remarqué, mais. Je m'étais pas rendu compte, mais. Avec Claudia, j'avais pas remarqué, mais genre, c'est vrai. Dès que je suis stressée au travail, j'ai tendance à sauter mon lunch. Hey, je m'étais pas rendu compte, mais comme, ouais, je pensais que je mangeais des légumes, j'en mange vraiment pas tant que ça finalement. Hey, j'avais pas remarqué, mais comme moi, c'est vraiment la fin de semaine là, que la plupart de mes habitudes de vie, de vie peut-être, mais de bouffe, ils changent puis ils prennent le bord, tu sais. Donc, ça te permet d'observer ton point actuel, de ça ressemble à quoi tes habitudes alimentaires en ce moment, et d'identifier des priorités, encore une fois, des choses qui sont très, très flagrantes. Et souvent, ces choses-là, on peut déjà, sans coaching, là, on peut déjà commencer à les améliorer. Donc, c'est ce que ça permet beaucoup, le journal alimentaire. Parce qu'on est beaucoup, évidemment, dans nos habitudes. Souvent, on va manger la même affaire. Ça aussi, c'est un commentaire que j'ai souvent. Hey, j'avais pas marqué, mais genre, coudonc, je mange vraiment tout le temps la même affaire, tu sais. Puis la variété en alimentation, c'est super important. Ça veut pas dire que tu t'obliges à manger des choses différentes à tous les jours, mais au moins à chaque semaine, de changer tes aliments. À chaque fois que tu vas à l'épicerie, au lieu d'acheter toujours des bananes puis des oranges, ben peut-être que tu achètes des pommes puis des raisins la deuxième semaine, puis de la cantaloupe puis du melon d'eau la troisième, puis bref. Il y a des façons d'amener la variété. J'ai un épisode, pas de podcast, mais j'ai une vidéo YouTube. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas abonnés à ma chaîne YouTube, bon, il y a le podcast qui va directement sur YouTube, mais j'ai aussi regroupé là, comme 100 de vidéos que j'avais faites, entre autres, en mode Facebook Live avant de lancer le podcast sur plein de sujets. Fait que cherchez Carmackin sur YouTube, vous allez me trouver. Puis, il y a une vidéo qui parle de ça. Fait que marquez Carmackin variété. Puis ça va sortir, mais la variété, c'est important. Fait que bref, c'est peut-être quelque chose que tu observes dans ton journal alimentaire, que tu manges tout le temps la même affaire, tu sais. Fait que tu es capable par toi-même de voir ça, faire comme, OK, la semaine prochaine, ben je vais acheter un nouvel aliment, tu sais, ou je vais changer mes légumes, ou au lieu de manger juste du poulet, je vais peut-être acheter du bœuf, tu sais. Donc ça, c'est une raison super importante. C'est pour ça que je vous dis qu'en ce moment, si vous êtes dans une phase de votre vie que vous voulez, encore une fois, que ça soit perdre du gras, améliorer votre digestion, mieux manger, vous êtes comme « Ah, j'ai pas les moyens, genre, d'investir dans du coaching en one-on-one ou ça me tente pas de m'embarquer dans une démarche de genre 6 mois ou de suivre un plan alimentaire. » Ben commence là, écris ce que tu manges, puis commence à mettre en priorité les choses qui sautent au visage. L'autre point avantageux de faire un journal alimentaire, bien, je l'ai déjà dit, c'est d'être capable de mesurer objectivement la progression de semaine en semaine. Si ton journal alimentaire, il est le même semaine 1 versus semaine 10, bien, ça veut dire que tu n'as rien changé. Fait que pourquoi tu n'as rien changé? C'est-tu parce que tu manques de connaissances puis tu n'arrives pas à observer justement qu'est-ce qui saute au visage puis qui devrait être amélioré? C'est-tu parce que tu es tellement ancré dans des moins bonnes habitudes que tu n'arrives pas à changer tes habitudes? C'est-tu parce que c'est pas toi qui contrôle ce que tu manges, parce que c'est, je sais pas moi, ton conjoint, ta conjointe qui fait la bouffe, puis il y a des facteurs dans ton environnement qui doivent être regardés? C'est-tu parce que tu as des addictions à certains aliments? Tu sais, fait que voilà, si tu vois qu'il y a une observation, si tu vois, pardon, qu'il y a une progression de semaine en semaine, bien c'est super, tant mieux. Mais s'il y en a pas, c'est là qu'on se questionne sur pourquoi il y en a pas, puis c'est là que souvent le coaching devient vraiment pertinent. Et la troisième grosse... l'avantage, c'est sûr, mais ce qui va aider vraiment, c'est justement dans un processus de coaching. Moi, je fais pas de plan alimentaire. Fait que quand même que tu me dis combien tu pèses, puis combien tu mesures, puis combien de poids tu veux perdre par telle date, je te ferai pas un plan alimentaire avec justement le nombre de calories, puis compter tes graineries, puis te dire que tu dois manger 47 grammes de X, puis 58 grammes de Y. Tu sais, c'est pas comme ça que je fonctionne. Donc, moi, je pars du journal alimentaire de la personne au début et je vois, moi, qu'est-ce qui saute au visage, qu'est-ce qu'on va changer, une petite chose, mais qui va déjà créer des bons résultats, des bonnes améliorations, qui va influencer d'autres habitudes. Donc, ça permet, moi, en tant que coach, d'avoir du data, d'avoir des informations personnalisées à la personne, d'avoir une image de sa réalité nutritionnelle actuelle. Et après ça, de pouvoir la guider dans ce qu'elle a besoin. Si ma cliente, elle a des déjeuners qui sont déjà awesome, avec plein de bonnes protéines, des bons gras, des fibres, sauf que c'est au niveau de la collation d'après-midi puis le souper, genre à partir de 3 heures que là, ça se gâche, avec beaucoup trop de sucre, de grignotage, d'alcool, ben, je veux dire, je commencerai pas par le déjeuner, il est déjà optimal. On va commencer par la collation d'après-midi, par exemple. On va commencer par rajouter, je sais pas moi, des fibres dans son souper pour qu'elle diminue genre le sucre. Ou tu sais, peu importe. Fait que si vous êtes en processus ou en accompagnement en ce moment, que ce soit avec moi ou n'importe qui, ça nous aide à vous aider. Fait que c'est pour ça que j'adore utiliser le journal alimentaire comme outil. Maintenant, comment moi je propose de le faire? La réponse, c'est ça dépend. Le journal alimentaire, selon moi, encore une fois, ne devrait vraiment pas vous prendre 3 heures par jour. Ça ne devrait pas être une corvée. Ça ne devrait pas être chiant faire votre journal alimentaire. Ça ne devrait pas être tellement prenant comme temps, comme énergie, frustrant, puis genre, que vous le faites pendant 2 jours, puis après ça, vous arrêtez. Ça ne devrait pas non plus être quelque chose que vous vous dites « Oh man, je vais être obligée d'écrire tout ce que je mange à tout jamais, du matin au soir pour le reste de mes jours. » C'est un outil qui est temporaire, que tu peux réutiliser quand tu en as besoin. Fait qu'en ce moment, si vous m'écoutez, ça fait vraiment longtemps, vous n'avez pas écrit votre journal alimentaire, peut-être que c'est un bon timing pour le faire pendant quelques jours. Donc, c'est ça l'approche. Il faut que ça soit fait de façon fluide, il faut que ça soit fait de façon plus facile pour vous. Il faut que ça soit fait avec une méthode qui vous convient, qui fait en sorte qu'il n'y a pas trop d'obstacles. Dans le sens que si ça te prend full de temps à le faire, tu ne le feras pas. Si tu utilises une application mobile puis ça te prend 10 minutes de trouver quel poulet tu as mangé, bien c'est chiant genre de perdre du temps à trouver quel poulet on a mangé, fait que tu ne le feras pas. Fait que moi, je propose toujours plein de façons différentes à mes clientes de le faire et je vous en nomme quelques-unes, donc vous allez pouvoir trouver la façon qui vous convient. Donc, moi, j'utilise Total Coaching, qui est une plateforme de coaching avec toutes mes clientes. Toutes mes clientes, ils ont leur profil personnel, où est-ce qu'ils ont la messagerie avec moi, ils ont les check-ins à chaque semaine, ils ont leur calendrier dans lequel on met tout. Que ce soit le nombre de pas, le tour de taille, le journal alimentaire, les programmes d'exercice, des habitudes précises qu'ils veulent travailler, des vidéos. On met vraiment tout dans le calendrier de saines habitudes de vie. Il y a une fonction sur ma plateforme, sur l'app que j'utilise pour faire le journal alimentaire. De façon très transparente, j'ai des clientes qui adorent ça. Ils s'en vont dans l'app, ils cherchent, mettons, ils ont mangé une pomme, ils cochent la pomme, ils glissent ça dans leur déjeuner, ils sauvegardent ça. Merci, bonsoir. J'ai des clientes qui vont mettre les photos de ce qu'ils mangent dans leur journal alimentaire sur ma plateforme. Donc, parenthèse, prendre des photos de ce que vous mangez, c'en est une façon de faire votre journal alimentaire. C'est rapide, c'est quick, Après ça, à la fin de ta journée, tu peux regarder les 3-4 photos de la bouffe que tu as mangée. Tu peux te faire un petit dossier dans ton cellulaire. Donc, prendre des photos de ce que tu manges, si pour toi c'est plus facile, ben super, vas-y comme ça. Fait que moi, j'ai des clientes qui vont prendre des photos, puis après ça, ils vont mettre la photo directement sur la plateforme de Total Coaching. Après, j'ai aussi des clientes qui détestent le journal alimentaire sur Total Coaching, puis c'est bien correct parce que effectivement, des fois, on va chercher poulet, puis il y a genre 30 options de poulet. C'était-tu une cuisse, une poitrine, c'était-tu frit, c'était-tu... Tu sais, à un moment donné, des fois, on trouve pas exactement ce qu'on a mangé, puis là, ça devient un petit peu frustrant. Puis pour les perfectionnistes dans la salle, bien, des fois, ça nous frustre de pas trouver exactement ce qu'on a mangé, tu sais. Donc, finalement, on arrête de faire le journal alimentaire pour ça. Donc, j'ai des clientes qui préfèrent utiliser d'autres méthodes. Des fois aussi, on mange des repas qui sont composés de plein d'affaires, fait que ça peut devenir long de trouver sur une application mobile. Je sais pas, moi, t'as fait une recette genre Pokéball, fait que là, faut que tu trouves tous les ingrédients, faut que tu trouves les ingrédients de ta petite sauce, peut-être que t'as fait une recette avec genre vraiment plein d'aliments que tu manges pas souvent, tu sais, bref. Des fois, t'es au resto, tu sais, pis t'arrives pas à trouver exactement ce que t'as mangé au resto sur l'app. Fait que c'est toutes des bonnes raisons de pas nécessairement aimer ça, rentrer les aliments sur une application mobile, que ce soit celle que j'utilise avec mes clientes. Il y a MyFitnessPal qui est super populaire aussi, tu sais. Et l'autre raison aussi pourquoi des fois les clientes n'aiment pas utiliser l'app, c'est parce que, évidemment, la plupart des applications, ils vont te donner tous les chiffres. Donc, ton nombre de calories, ton nombre de glucides, ton nombre de protéines, ton nombre de lipides, il y en a qui rentrent aussi même dans tous les minéraux, les vitamines, etc. Et moi, je dis toujours à mes clients, si tu utilises l'app, je veux absolument que tu ignores, que tu oublies la section à gauche avec toutes les données. Parce que quand tu vas rentrer ton poulet, quand tu vas rentrer ta pomme, bien, ça va se calculer automatiquement. Par contre, on revient à ce que j'ai dit au début, la marge d'erreur est tellement, tellement, tellement grande que, encore une fois, le poulet que tu as mangé, c'était-tu vraiment genre 200 calories ou c'était 400? Puis, encore une fois, peut-être que ça peut rajouter de la pression de voir ces chiffres-là. Puis là, tu vois une ligne rouge, genre, qui dit que tu as busté ton nombre de glucides pour la journée. Fait que là, encore une fois, tu reviens dans un discours interne de « tu te sens mal, là, je mange trop de glucides. » Puis là, mon Dieu, ça me dit que je suis supposée manger 2000 calories. Et là, j'en ai mangé 2400, c'est pour ça que je vais engraisser. Bien, ce mindset-là, là, genre, c'est souvent suffisant pour ne pas perdre du gras. Tu sais, il y a, oui, le quoi qu'on mange, mais aussi dans quel état on mange des choses qui affectent notre digestion, qui affectent notre taux de cortisol, qui affectent littéralement si on va perdre du gras ou non. Donc, si ça rajoute un stress, une pression de voir ces chiffres-là, puis c'est des chiffres, je vous le rappelle, qui sont zéro personnalisés à vous, là. Oui, des fois, encore une fois, tu peux, genre, mettre ton poids, ta grandeur, ton niveau d'activité physique, mais tu sais, bon, avec AI, il y a plein d'affaires qui sont déjà... le marché, j'ai envie de dire, que moi, j'ai pas plongé dedans, puis je pense pas que je vais le faire non plus, mais il y en a qui sont des geeks là-dedans, puis j'ai assisté à un webinaire la semaine passée que j'ai écouté comme un peu de travers parce que c'est pas la chose qui m'intéresse le plus, mais je trouvais ça quand même intéressant, puis tu sais, j'étais curieuse aussi de voir qu'est-ce qui se mijotait justement sur ce genre d'application-là. Puis c'est fou, là, ça va être de plus en plus précis, évidemment. On va pouvoir aller chercher ces données-là, tu sais. Mais monsieur, madame, tout le monde, bon, faut plonger dedans. Tu sais, moi, je le fais pas encore. Je sais pas si je vais le faire. Si toi, tu veux te lancer là-dedans, dans des applications avec AI qui track encore plus tous ces détails-là, vas-y. Mais encore une fois, je pense pas que, tu sais, avoir une alimentation saine, ça veut dire de tout calculer au gramme près. Tu sais, en tout cas, encore une fois, c'est mon approche. Donc, bref, tout ça pour dire que de faire son journal alimentaire sur une application mobile, ça peut être un yay ou ça peut être un nay. Puis si toi, t'aimes pas ça, puis que c'est comme non pour parce que c'est trop long, je trouve pas qu'est-ce que j'ai mangé, les chiffres, les données, ça me stresse, etc., bien, tu peux prendre des photos. Tu peux l'écrire papier, crayon. Ben oui, ça existe encore, ça, hein, papier, crayon. Moi, j'ai des clientes qui ont leur petit journal, ils écrivent ça papier, crayon, ils prennent une photo de leur journée, puis ils m'envoient ça à chaque jour, la photo de ce qu'ils ont écrit dans leur cahier. J'ai des clientes qui se font des fichiers Excel qui vont partager sur Google Drive. Fait que il y en a même qui vont mettre des photos dans le fichier Excel. Il y en a qui vont juste écrire à la main qu'est-ce qu'ils ont mangé, puis ils vont partager ça. Fait que je vais avoir accès. Il y en a qui vont écrire leur journal alimentaire dans les notes de cellulaire. C'est super simple. On a notre cellulaire toujours avec nous. Fait que tu ouvres ton cellulaire, tu vas dans les notes, tu marques la date, tu tapes OK, j'ai mangé deux œufs, une pomme, etc. C'est pas ça la même chose. Ils prennent un screenshot ou ils font un copier-coller puis ils m'envoient ça sur l'app. Donc, bref, il y a différentes méthodes pour écrire votre journal alimentaire. Je vous rappelle que l'important, c'est que ça soit fluide, que ça soit rapide, que ça ne vous rajoute pas un casse-tête à chaque jour et que ça soit une méthode qui vous convient pour que vous puissiez le faire de façon constante. Est-ce qu'on le fait de façon constante le reste de nos jours? Non! Mais tu sais, au moins, bon, commencez quelques jours. Si vous avez des objectifs d'améliorer quoi que ce soit, bien quelques semaines pour avoir le temps de voir les améliorations, tu sais. Mais c'est important de le faire, puis surtout de trouver une façon qui vous convient. Parlant justement de, OK, je le fais combien de temps, je le fais quand, bien, tu sais, je vous recommande une semaine complète au départ. Surtout si ça fait longtemps, vous n'avez jamais fait de journal alimentaire, bien, écrivez une semaine au complet. Vous allez voir la différence entre la semaine, la fin de semaine. Vous allez pouvoir voir s'il y a des tendances qui reviennent aussi de jour en jour. Par exemple, comme je disais tantôt, quand vous êtes stressé au travail puis vous sautez un repas peut-être, vous allez pouvoir voir si vous mangez pas mal toute la même chose à tous les jours. Donc, tu sais, minimum une semaine. Du matin au soir, tout ce que vous mangez, tout ce que vous buvez, je pense que c'est une bonne façon de commencer. Après, si après avoir eu cette prise de conscience-là initiale, vous remarquez quelque chose de flagrant, exemple, c'est vraiment vos déjeuners, la problématique, vous déjeunez encore avec genre un muffin ou une toast blanche de Nutella ou genre un bol de céréales Cheerios, bien, peut-être que vous dites, OK, ma priorité dans les prochaines semaines, c'est d'améliorer mes déjeuners, donc je vais continuer mon journal alimentaire, mais je vais juste écrire mes déjeuners. Parce que ça aussi, vous avez le droit. Oui, au début, on veut tout écrire, c'est sûr. Mais moi, c'est ce que je fais parfois avec des clientes. Mettons que notre objectif dans les prochaines semaines, c'est d'améliorer la collation d'après-midi. Bien, je vais lui dire, check, pour pas que ça prenne trop de temps, pour pas te casser la tête, écris-moi juste ou prends-moi juste en photo tes collations durant la prochaine semaine. T'sais, si toi, c'est vraiment ta consommation pardon, de café que tu veux améliorer, réduire, puis tu veux boire plus d'eau, bien, peut-être que pendant une semaine ou deux, t'écris pas ce que tu manges, tu fais juste écrire ce que tu bois. Fait que ça aussi, c'est possible de tracker, de faire le suivi de l'habitude précise qu'on est en train de travailler. Puis si ça n'améliore pas, après une semaine, après deux semaines, après trois semaines, bien c'est là qu'il faut peut-être faire un petit peu de recherche, voir c'est quoi des trucs. Il faut peut-être revoir nos stratégies. Il faut peut-être justement engager quelqu'un pour travailler avec nous en coaching. OK? Donc minimum une semaine, on regarde qu'est-ce qui saute au visage. Après ça, peut-être qu'on continue pendant plusieurs semaines parce qu'on a des objectifs à améliorer ou peut-être qu'on continue avec une ou deux habitudes précises, spécifiques. Mais c'est un minimum d'une semaine, je pense que ça peut être super pertinent pour, encore une fois, ces prises de conscience-là. Donc, on a parlé de pourquoi faire un journal alimentaire et pourquoi, en fait, les bonnes raisons et les moins bonnes raisons de faire un journal alimentaire. On a parlé de quelle modalité, comment l'écrire, tu sais, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme outil. On a parlé de, bon, la durée, tu sais, on devrait faire ça combien de temps, quand, quoi, on va pas rentrer en détail, on s'en va là après. Et bien, on va y aller tout de suite. Qu'est-ce qu'on écrit dans notre journal alimentaire au-delà de qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on boit, si on n'écrit pas nos calories, tu sais, ou si on veut pas compter nos calories. Fait que moi, au début, pour se mettre dans le beat, pour se mettre dans l'habitude, tu sais, pour pogner notre momentum, pour pas que ça soit trop compliqué, moi, ce que j'encourage mes clientes à faire, c'est d'écrire le quoi. Donc, qu'est-ce qu'elles mangent? C'est quoi la nature de l'aliment? Et la portion à peu près. Fait que souvent, là, on commence juste avec ces données-là. Fait que c'était quoi? C'était-tu des œufs? C'était-tu des Rice Krispies? C'était-tu du McDo? C'était-tu un steak? C'était-tu un poisson? Un saumon? Bref, on comprend. Et la portion à peu près. Puis je dis à peu près parce que, encore une fois, on ne veut pas passer 1 million d'heures à peser notre nourriture puis à compter nos grains de riz. Donc, si c'était œuf, bien, c'était-tu un œuf, deux œufs, trois œufs? Si c'était une salade, bien, c'était-tu comme 4 feuilles d'épinards ou genre 2 bonnes poignées? Si tu as mangé une poitrine de poulet, ben c'était-tu une poitrine grosseur normale ou genre le tiers d'une poitrine de poulet? Si tu t'es fait un smoothie, ben il y avait quoi dans ton smoothie? Une demi-banane, une banane au complet, une scoop de protéines, une demi-scoop de protéines, une tasse à peu près de lait d'avoine ou une demi-tasse? Si tu as mangé des pâtes pour souper, ben des pâtes, ça ne me dit pas grand-chose. Fait que tu peux me dire, ah, j'ai mangé environ 2 tasses de pâtes cuites avec l'équivalent de 3 morceaux de brocoli, 1 demi-piment et à peu près 10 crevettes. Tu peux prendre une photo, puis en plus, on voit la portion. Mais tu sais, la portion à peu près, bartende, c'était quelle bartende, quelle marque? T'en as mangé une, t'en as mangé deux, t'en as mangé trois. OK, donc encore une fois, la nature de ce qu'on mange, puis à peu près la portion. Ensuite, si on va aller plus loin, et je vous recommande d'aller plus loin, parce que, je sais pas si... Ouais, j'en ai parlé, oui puis non, là. Je parlais de la digestion, là, pour qu'on ferait un jeûne alimentaire, mais comme, ça, avec, ça en est une autre très, très bonne raison. Tu sais, si vous avez des problématiques au niveau de votre digestion. Puis tu sais, comme, la digestion, là, j'ai fait un autre podcast là-dessus. Alors, j'en ai fait plusieurs podcasts sur la digestion, juste moi ou avec des invités, puis des vidéos YouTube là-dessus aussi. C'est tellement important. Genre, ça influence, comme, j'ai envie de dire, 99 % de nos symptômes de santé. Le gut, hein, je veux dire, on dit que c'est le deuxième cerveau, j'ai envie de débattre puis de dire que c'est le premier cerveau, tellement il y a des choses qui se passent dans cet endroit-là qui est, mon Dieu, tellement, tellement impactant puis influent sur toutes sortes de symptômes de santé. Donc, des fois, quand on pose la question, « Hey, t'as-tu des problèmes de digestion, toi? » Non, non, non. Parce qu'on associe cette question-là à des problèmes graves, genre j'ai la constipation pendant comme une semaine, ou genre je suis en diarrhée à tous les jours, ou comme j'ai des gros maux de ventre, j'ai des reflux gastriques, je sais pas moi, j'ai le côlon irritable, ou genre j'ai une allergie genre au lait ou une intolérance au gluten diagnostiquée, tu sais. Fait que oui, ça fait partie évidemment des problématiques en lien avec la digestion, mais il y a beaucoup de choses plus subtiles qu'on n'associe pas tant à ça. Genre des boutons sur le menton ou ailleurs, mais tu sais, souvent sur le menton, ça peut être une petite intolérance aux produits laitiers, entre autres. Des fois, les selles sont plus molles, un petit peu de brain fog l'après-midi, un coup de fatigue, tu te sens un peu gonflé le soir après avoir mangé tes repas durant la journée, tu as des petites raideurs dans les articulations des fois, tu sais. Fait que bref, il y a des signaux, des symptômes comme ça plus subtils qu'on n'associe pas nécessairement à qu'est-ce qu'on mange. Et pourtant. Fait que bref, je reviens à mon journal alimentaire. Bien, la prochaine chose que tu peux écrire, c'est... Comment je pourrais dire ça? L'effet, les ressentis, les symptômes, si tu en as. Fait que par exemple, tu as déjeuné, tu as marqué ton journal alimentaire, tu as dîné, tu as marqué qu'est-ce que tu as mangé pour dîner. Et là, genre vers 2-3 heures l'après-midi, tu as comme... Tu as mal au ventre, tu as des petites crampes dans le ventre, puis tu as la diarrhée. Ben, écris-le dans ton journal. Tu manges ton souper, t'écris ce que tu manges. Puis là, le lendemain, ben, peut-être que ça se reproduit ou pas. Puis, je sais pas, moi, le surlendemain, peut-être que, je sais pas, moi, avant d'aller te coucher, tu remarques que, genre, ton ventre est vraiment dur puis t'es super bloated, là, genre, t'es gonflé. Écris-le. Fait qu'écrire ces symptômes, écrire ces ressentis dans un journal alimentaire, ça peut permettre de trouver des pistes de solutions sur qu'est-ce qui aurait pu créer ça. Puis c'est vraiment pas évident en nutrition parce que, mettons que t'as la diarrhée à 2 heures, ça veut pas nécessairement dire que c'est ce que t'as mangé à midi qui a causé ça. La digestion, ça peut être quand même assez long. Je veux dire, il y a des aliments et ils restent dans notre corps pendant à peu près, des fois, 24 heures, tu sais. Puis si on a un transit qui est lent, parce que justement, on a peut-être de l'inflammation, des problèmes digestifs, bien, ça peut rester encore plus longtemps, tu sais. Surtout si vous avez, par exemple, des problèmes de constipation. Fait que, tu sais, le fait de rajouter ces détails-là dans votre journal alimentaire, bien, éventuellement, vous allez peut-être voir des patterns. Hey, à chaque fois que je prends des produits laitiers, bien, le lendemain, mes diarrhées, mes selles sont plus molles. Ou à chaque fois que je mange du sucre, plus de glucides ou de sucre le matin, bien, j'ai toujours un méga down de fatigue à 10 heures ou à 2 heures. Vous allez être en mesure de voir des choses qui se répètent, d'avoir des pistes de compréhension, de solutions. Et comme je vous dis, des fois, c'est vraiment pas évident. C'est pour ça que c'est super pertinent de travailler éventuellement en coaching, en naturopathie, naturopathie, nutrition, etc., pour qu'on puisse identifier un petit peu mieux qu'est-ce qui cause quoi. Mais moi, je parle de caca avec mes clientes vraiment souvent. Des fois, c'est comme « Excuse-moi, Claudia. » Je suis comme « Non, genre, donne-moi des détails sur tes selles parce que la façon qu'on élimine à la toilette, mon Dieu, je pense que c'est probablement ce qui représente le mieux notre santé interne. Genre, la façon que tu vas aux toilettes pour tes selles, c'est un indicateur comme flagrant, genre, de qu'est-ce qui se passe dans ton corps, tu sais. Fait que dès que t'es pas régulière, que c'est plus mou, que c'est plus dur, que c'est plus difficile, que ça te cause d'autres problématiques de douleur ou d'inconfort, bien, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton gut, dans ton environnement interne, que ça fonctionne pas, tu sais. Fait que est-ce que c'est accentué quand tu manges un tel type d'aliment? Est-ce que c'est mieux quand tu enlèves certaines choses? Bien, ton journal alimentaire va te permettre de voir ça éventuellement. Donc, écrivez vos selles, écrivez vos autres symptômes aussi, puis ça va vous aider à avoir des pistes de réflexion, de solutions. Puis après ça, à voir, encore une fois, s'il y a des patterns que, « Hey, à chaque fois que je mange ça, ben Il y a ça qui se passe durant la journée ou le lendemain. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'une réponse inflammatoire causée par ce qu'on mange, ça peut durer entre 2 heures et 2 semaines. Fait que des fois, tu sais, on réagit au niveau digestif, peut-être parce qu'on a mangé quelque chose il y a 3, 4, 5 jours. C'est pour ça que c'est pas évident. Hein? La nutrition, là, c'est pas juste, encore une fois, de suivre un plan alimentaire que tout le monde fait, qui est bien populaire sur les réseaux sociaux. C'est pas évident. C'est complexe. C'est pour ça que, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études. Puis même moi, genre, je veux dire, il y a tellement de choses que je sais pas. T'sais, plus j'en apprends sur la nutrition, plus je me rends compte que j'en ai à apprendre. Puis c'est ce que j'aime, moi, dans ce pilier-là de la santé, tu sais. Mais bref, je m'écarte un petit peu. Revenons au journal alimentaire. Ça, ce serait l'autre chose que je vous conseillerais de tracker, de rajouter. Avant même d'avoir mentionné ça, j'aurais pu dire aussi l'heure à laquelle vous mangez. Moi, un pilier fondamental en nutrition, c'est la constance au niveau de la fréquence des repas. C'est quelque chose que je trouve qui est super important, donc de manger à peu près aux mêmes heures à tous les jours. Ça aussi, ça va vous aider à voir, hey, des fois je saute le dîner, des fois je grignote toute la journée, des fois je prends 2 gros repas, d'autres fois je prends 6 petits repas, tu sais. Fait que écrivez l'heure à peu près à laquelle vous mangez pour voir s'il y a cette régularité-là, pour voir si vous devez laisser plus de temps entre votre souper ou la collation du soir qui est souvent inutile, on va se dire, puis votre heure de sommeil. Si vous avez besoin de dormir, ben puis que vous mangez pas... Attends, je vais recommencer cette phrase-là. Si vous avez de la misère à dormir et que vous ne laissez pas minimum 3 heures entre votre dernier repas et collation et votre heure de coucher, bien, commencez-là. Genre, si tu te couches à 9 heures, bien, à 6 heures, tu as fini de manger, là. Tu sais, comme si à 8 heures et demie, tu es fatigué puis tu as envie de manger, de grignoter un petit quelque chose, bien, va te coucher, là. C'est parce que tu es fatigué, tu sais. Fait que ça, c'est super important. Fait que les heures dans votre journal alimentaire, ça peut vraiment vous aider à voir si vous maîtrisez cette constance-là de manger à peu près aux mêmes heures. Le week-end, souvent, ça change. Puis c'est correct que ça change un peu. Je suis pas en train de dire qu'il faut se lever à 6h32 le week-end aussi parce que la semaine, tu te lèves à cette heure-là puis tu déjeunes à 6h45. Mais tu sais, à peu près, là, au moins 80% du temps, respectons cette constance-là. Donc, écrire l'heure à laquelle vous mangez. Une autre chose à rajouter dans votre journal alimentaire. L'autre chose que vous pouvez rajouter, c'est votre niveau de faim et de satiété. Donc, moi, je donne une échelle sur 10. Ça peut être sur 100%. On veut être à peu près à 8. Fait qu'avant de manger, on va avoir faim à peu près 8 sur 10. Puis quand on a fini de manger, ben on va être rassasié à peu près à 8 sur 10. Si on a faim genre 10 sur 10 puis qu'on s'auto-mange, ben on va probablement manger trop vite, avaler tout rond, pas mastiquer et manger trop. Fait que c'est vraiment pas idéal. Et si on a faim genre 1 ou 2 sur 10, ben comme t'as pas faim. Fait que pourquoi tu te forceras à manger si t'as pas faim? Je mets un astérix là-dessus parce que des fois, il y a des gens qui sont coupés de leur sentiment de faim et de satiété pour différentes raisons. Mais si toi, tu le sais que tu ressens la faim habituellement quand tu as faim, puis tu te sens en pleine ou rassasiée habituellement, puis que tes signaux sont quand même pardon, clairs et là, tu peux te fier là-dessus. Mais si tu es quelqu'un que toi, tu dis « Moi, je mange parce que, mon Dieu, je suis obligée de manger, il est midi, puis il est l'heure de luncher, mais je ressens jamais la faim », bien, raison de plus, peut-être, pour écrire sur 10, tu es à combien au niveau de ta faim, puis combien au niveau de ta satiété. Ça fait à peu près 20 minutes. Hein, on l'entend souvent, ce chiffre-là. 20 minutes pour que le signal se rende au cerveau de comme, OK, j'ai assez mangé. Puis souvent, on mange en quoi? Genre 5 minutes? Fait que no wonder qu'on mange trop vite. Pardon. Moi, j'aurais besoin d'une gorgée d'eau live, j'ai pas ma bouteille. no wonder qu'on mange trop vite, tu sais, puis qu'on mange trop. Puis que des fois, on a mal au ventre parce qu'on a englouti tout rond. Fait que niveau de faim, niveau de satiété, avant chaque repas, chaque collation et après. Puis, éventuellement, quand on sait que nos signaux, on peut se fier dessus, ben on veut rester autour de à peu près 7-8 sur 10 pour les deux. Parce que tu veux pas non plus, genre, trop manger tout le temps, puis là, t'as mal au ventre, puis là, tu regrettes. C'est sûr que ça t'indique littéralement que tu manges trop. Fait que ça en est une façon de savoir si je mange trop ou pas assez sans compter mes calories. Puis, regardons ça te permet d'être à l'écoute de ton corps, de reconnecter à tes signaux. Parce que des gens, des fois, qui sentent pas le signal de faim et de satiété, c'est parce qu'ils sont complètement déconnectés de leur corps. Ça, c'est une autre conversation sur écouter les besoins de son corps, se revenir dans notre corps physique, se sortir de notre tête, système nerveux, etc. Mais bref, faim, satiété, quand même des bonnes informations à écrire dans notre journal alimentaire. Et la dernière chose que je pourrais vous inclure dans le journal alimentaire, c'est les pensées, les ressentis, les émotions que vous avez autour du repas, s'il y a lieu. Et ça fonctionne très bien pour les gens qui essaient d'améliorer leur relation à la nourriture. Des gens qui vont manger leurs émotions, des gens qui vont se gaver dans la nourriture, des gens qui vont sauter des repas, des gens qui vont se sentir coupables dès que c'est pas parfait dans leur nutrition puis qu'ils ont mangé un aliment différent. Des gens qui sont influencés beaucoup socialement, des gens qui ont de la misère à se contrôler devant une quantité énorme de nourriture ou plus grande que qu'ils sont habitués. Et ça, je pense que c'est le golden key de mon coaching, puis de l'approche plus saine à la nourriture. C'était quoi tes intentions quand tu as mangé ça? Comment tu t'es senti pendant et après? Et pourquoi tu as mangé ça? Exemple, tu écris dans ton journal alimentaire que tu as mangé des chips avec la salsa, 3 verres de vin, le repas principal qui était, je sais pas moi, une brochette de poulet avec du poulet, ben évidemment du poulet, du riz, des légumes. T'as mangé un cheesecake, puis plus tard dans la soirée, t'as mangé d'autres chips. Peut-être que moi, je lis ça, puis je me dis, OK, visiblement, c'est un repas qui est très, très riche en calories, en gras, en sucre, en sel, en portions, etc. OK, visiblement, il y a beaucoup d'aliments différents. Donc, elle vient de passer son 20 % d'aliments différents dans la semaine, drette là, dans un repas et même plus, tu sais. OK, si j'ai que ça comme information, bien, c'est sûr que moi, je peux interpréter ça différemment. Mais si, dans le journal alimentaire, je lis aussi « Oh my God, quelle soirée awesome! Ça faisait longtemps que j'avais pas ri de même. Mon Dieu, j'ai vraiment trop bu, j'ai trop mangé, mais comme je bois full d'eau depuis hier, on a eu du fun. Mon Dieu, ça doit faire 2 ans que j'ai pas mangé un cheesecake comme ça. C'était tellement bon. Puis genre aujourd'hui, là, c'est ça, je bois mon eau, je suis allée prendre une marche, puis comme j'ai hâte de manger mes légumes puis mes fruits, tu sais, comme quelle belle soirée. » Y a-t-il un problème à ce niveau-là? Non. Par contre, si je lis la même liste de nourriture qui a été mangée et que dans le journal alimentaire, je lis aussi « Claudia, je me sens vraiment, vraiment coupable. J'ai pas dormi de la nuit. Genre, j'ai mal au ventre. J'ai comme un point dans l'estomac. Genre, je savais que j'étais trop, mais comme aussitôt que j'ai commencé à manger les chips en entrée, je savais que j'allais déraper. Puis là, toute la soirée, j'étais pas présente parce que j'essayais d'arrêter de manger, de refuser le gâteau, de pas boire, mais comme c'était plus fort que moi. Puis là, aussitôt que je prenais une bouchée, ben je me disais, Colin, t'es pas une bonne personne, tu réussiras jamais, tu perdras jamais de poids. Puis là, j'avais l'impression que tout le monde me regardait puis me jugeait. Puis genre, j'étais arrivée chez nous, puis comme j'ai pleuré, puis genre, j'étais allée me coucher. Puis là, ce matin, j'ai comme déjà mangé genre une crêpe avec du sirop parce que je crève encore du sucre. On s'entend, hein? Même soirée, même quantité de bouffe mangée, même nature d'aliments. Satiété, dans les deux cas, ça a topé le 10, là. On s'entend. Mais deux situations complètement différentes. Complètement différentes. Donc, je vous donne cet exemple-là parce qu'elle a la magie aussi du journal alimentaire. Quand on arrive à être en pleine conscience, à s'observer, à écrire, à décrire dans quel état on était quand on a mangé des aliments différents surtout. Tu sais, quand tu manges tes 2 œufs le matin, que tu manges à toi le matin, on n'en fait pas un big deal, là. Genre, c'est chill. Mais quand tu as des moments comme ça, où est-ce que tu manges plus, où tu manges des aliments différents, où tu manges des choses que toi, tu interprètes comme étant pas nécessairement alignées avec tes objectifs de nutrition de santé, bien, va creuser dans ton mindset, dans tes émotions dans lesquelles tu étais pendant et après le repas ou la soirée. Does that make sense? Je fais comme si j'attendais votre réponse à travers mon micro, tu sais. J'imagine que vous avez tous dit « Oui, ça fait du sens, Claudia! » Fait que bref, allez faire votre journal alimentaire, écrivez-moi si vous avez des questions, et de le faire comme ça, avec ces raisons-là, vous allez voir, ça va devenir vraiment un outil génial d'écrire un journal alimentaire. Ça sera plus comme une corvée, ça sera plus une façon de vous juger, puis de vous dire si vous êtes une bonne personne ou non. Ça va être comme « Hey, wow, c'est un exercice de journaling, un exercice d'introspection, un exercice de collecte de données que je peux utiliser pour m'aider, pour améliorer mes choix alimentaires, puis surtout ma relation avec mes choix alimentaires. C'est donc bien awesome et wonderful. » Okay? C'est ça que je veux que vous ayez comme approche, comme vibe autour du fameux journal alimentaire. Donc, les do's, les don'ts, si ça vous parle, awesome, commencez ça. Si vous avez encore peut-être des, je sais pas moi, pensées peut-être moins alignées ou peut-être un petit peu sceptiques ou vous avez peut-être peur de réécrire ce que vous mangez parce que vous avez peur que ça trigger vos troubles alimentaires que vous avez eu dans le passé, ben écrivez-moi, pour vrai, ça me fait vraiment plaisir. Ça m'arrive souvent. C'est pour ça que j'ai toujours ce discours-là avec mes clientes par rapport au journal alimentaire. Je vous l'ai dit, là, d'entrée de jeu, moi, c'est ce que j'ai vécu. Le journal alimentaire, ça a littéralement causé des troubles alimentaires. C'était pas évidemment le seul facteur, mais je suis devenue obsédée à justement compter mes calories puis tout rentrer dans MyFitnessPal puis genre de capoter ma vie si genre j'avais busté mes calories puis là, je me forçais à m'entraîner plus. C'était extrêmement malsain. Et là, aujourd'hui, ben pas juste aujourd'hui, mais depuis les nombreuses dernières années, ben c'est ça. On change notre discours, on change nos intentions, puis on change la façon de le faire. Et my God, que ça l'aide! My God, que ça aide de faire un journal alimentaire, mais effectivement, il faut écouter les do's and don'ts et s'écouter soi-même aussi, surtout. Donc, voilà, je vous laisse là-dessus. Évidemment, je vais finir avec un petit quote, mais je veux juste vous rappeler que si vous avez besoin d'aide avec votre nutrition, j'ai évidemment du coaching en one-on-one où est-ce qu'on travaille tout ça, on optimise une chose à la fois, on est dans une stratégie d'ajout, on travaille les piliers fondamentaux en premier, on peaufine de semaine en semaine, on rajoute des bonnes choses pour que les moins bonnes choses prennent le bord sans qu'on soit jamais en mode tout ou rien, restriction, privation. Fait que c'est vraiment, vraiment une approche qui est super appréciée par mes clientes. Et j'ai aussi une formation que tu peux faire à ton rythme sur mon site Internet. Donc, devenir experte des piliers fondamentaux en nutrition, karmakin.ca/formation-nutrition. Vous allez le trouver facilement. Je le mettrai dans les notes du podcast aussi, là. Puis, c'est une vingtaine de vidéos de 10 à 20 minutes, fait des capsules éducatives avec justement un template pour faire votre journal alimentaire avec vos niveaux de faim et satiété, avec vos pensées aussi, avec votre niveau d'énergie. Donc, des belles choses à écrire, à calculer avec le journal. Puis, j'inclus aussi un recueil d'une cinquantaine de recettes. Donc, ça, c'est sur mon site web. Vous pouvez faire ça à votre rythme et vous garder accès, dans le fond, j'ai envie de dire à tout jamais. Faire attention à ce qu'on dit. Tout d'un coup que, je sais pas moi, les internets plantent puis que, je sais pas, Karmakin n'existe plus dans 50 ans. On dira pas à tout jamais, mais bref, vous gardez ça sur le long terme dans le sens que vous pouvez vraiment suivre la formation à votre rythme. Donc, il y a ça qui est une option beaucoup plus abordable que du coaching en one-on-one. Et du coaching en one-on-one, ben, je fais aussi des reçus, comme vous savez peut-être, kinésiologie, naturopathie. Donc ça, ça peut aider si jamais vous avez des assurances qui couvrent ce genre de services-là. C'est un investissement pour votre santé aussi. Puis la nutrition, mon Dieu, ça influence tellement, tellement d'autres choses pour votre santé. Fait que vous méritez de bien manger pour vivre dans un corps en pleine santé. Alors, aujourd'hui, ça va être super classique, là, ma quote. Vous l'avez sûrement déjà entendue. Hippocrate, « Let food be thy medicine and medicine be thy food. » Donc, c'est ça, la nutrition, les aliments, la façon qu'on se nourrit, ça peut littéralement amplifier, même déclencher des maladies, mais ça peut aussi agir comme médicaments de la nature, comme choses qui vont nous aider à guérir vraiment from the inside out. Et ben c'est ça, ça fait partie de ma mission que chaque personne puisse au moins une fois dans leur vie ressentir c'est quoi vivre avec une santé intérieure, une santé du gut, une santé digestive qui est au plus optimale. Puis je pense vraiment que le journal alimentaire, ben c'est une bonne place pour commencer. Fait que bon journal alimentaire à tout le monde, puis n'hésitez pas à me donner votre feedback!